nous faut d'abord faire aimer le travail.
Donc il faut vraiment se défoncer comme des dingues.
On est numéro un mondial et on veut le rester.
Salarié heureux, client heureux.
Qu'il y a chez la NUPES, les gens qui n'aiment pas le travail, qui n'aiment pas la valeur travail, qui veulent une société sans effort, sans travail, et qui mentent parce qu'ils disent qu'on pourrait très bien vivre sans travailler.
C'est important que le manager aide son collaborateur à développer son employabilité.
Non mais moi je suis actionnaire, donc je ne travaille pas.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Galère et vous écoutez Galère de Taf. À chaque émission, on vous propose de discuter d'un ouvrage qui développe une pensée critique sur le travail, que vous n'avez peut-être pas eu le temps de lire si vous travaillez trop, ou que vous n'avez pas pu acquérir si vous ne travaillez pas assez.
Dans cette nouvelle émission, que nous avons appelée « Sans papier, travailler pour exister », nous allons parler du travail pour les personnes en situation irrégulière, dites « sans papier ».
Parce que chaque nouveau gouvernement s'accompagne d'une loi immigration qui fricote toujours un peu plus avec l'extrême droite, il nous semble important de relayer la parole de celles et ceux que l'on entend trop peu, celle des travailleurs et travailleuses sans papier.
Pour rappel, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, veut présenter une nouvelle loi immigration qui reprendrait les mesures les plus sévères de la loi Darmanin, c'est-à-dire celle qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel en janvier dernier.
Parce qu'on en a assez d'entendre en continu des propos racistes et mensongers à propos de l'immigration, on veut, dans cette émission, faire entendre d'autres voix. Celles qui relaient les histoires de ces personnes, qui nous éclairent sur les réalités du travail auxquelles elles sont confrontées et qui analysent la situation juridique en France.
Ces voix, ce sont celles de Brigitte Appia, bénévole à la CIMAD, une association qui défend la dignité des droits des personnes réfugiées et migrantes, et Najma Brahim, journaliste chez Mediapart et autrice du livre « 2 euros de l'heure » sorti en janvier dernier, en 2024 aux éditions du Seuil.
Alors, à qui profite le travail des sans-papiers? À quelle réalité sont confrontées ces personnes au travail? Quel est l'intérêt pour l'État français de ne pas les régulariser? Quels bénéfices pour les patrons? Pour répondre à ces questions, on va pas faire comme d'habitude, donc c'est pas nous qui allons vous restituer le fruit d'une de nos lectures. On est allé directement rencontrer l'autrice Najma et on a complété sa parole avec celle de Brigitte de la CIMAD, comme le disait Pauline.
Et on veut rajouter aussi qu'avec Lisa, notre vision, c'est de ne pas faire du travail une condition de régularisation des personnes sans papier. Parce qu'on voit beaucoup émerger cette figure du, que je mets entre guillemets, migrant militant.
Méritant.
Migrant méritant.
Surtout pas militant.
Qui doit prouver son intégration dans la société et le travail qui occupe bien sûr une place centrale dans la construction de cette figure. On considère que la régularisation doit être un droit élargi. Tout le monde mérite d'être régularisé, qu'il ou elle travaille ou non.
Donc pour commencer, vous allez entendre Najma Brahim qui nous parle de son livre « 2 euros de l'heure ».
C'est un livre enquête qui parle de 9 personnes que j'ai essayé de suivre un peu dans la durée. Et donc ces 9 personnes-là, j'essaye de raconter leur histoire, leur parcours migratoire, par où elles sont passées, pourquoi est-ce qu'elles ont quitté leur pays d'origine, comment est-ce qu'elles sont arrivées en Europe, en France, et quel est leur quotidien, à quoi ressemble leur quotidien en France, que ce soit sur le travail, la question du travail, le logement, la question des droits, évidemment, etc., etc. Le titre, il a quand même une histoire, c'est qu'au départ, quand j'ai signé avec la maison d'édition, donc Le Seuil, on n'était pas parti sur ce titre-là. On était parti au départ sur La Fabrique des esclaves. Mais on s'est rendu compte que c'était une expression qui était un peu vue et revue. Donc au fur et à mesure, on a commencé à réfléchir à d'autres titres et mon éditrice Salomé Vio a pensé à 2 euros de l'heure parce que, en réalité, en enquêtant sur ce sujet, je me suis rendu compte que les personnes sans papier étaient très peu, voire parfois pas du tout payées, et qu'on était dans une forme d'exploitation totale, puisque par définition, c'est des personnes qui ne sont pas censées être sur le territoire, donc qui ne sont pas censées travailler. Évidemment, tout ça est très hypocrite, puisque l'État français sait parfaitement qu'elles sont là, les entreprises savent parfaitement qu'elles sont là, puisqu'elles font appel à eux. Alors, situation irrégulière, ou certains vont dire situation illégale, le jargon utilisé par l'administration française, par le ministère de l'Intérieur, c'est étrangers en situation irrégulière, qu'ils appellent ESI. Et c'est vrai que nous, on les appelle plus communément les personnes sans papier. C'est des personnes qui vivent sur le territoire. Elles peuvent être venues sans en avoir le droit, c'est-à-dire sans visa, et donc vivent sur le territoire sans visa et sans titre de séjour, puisque les personnes étrangères qui vivent en France, pour pouvoir rester sur le territoire, il leur faut un titre de séjour. Nous, Français, Françaises, on a une carte nationale d'identité, un passeport. Et ben, les personnes étrangères, elles ont un titre de séjour, une carte de séjour. Ça peut aussi... Et attention, c'est là qu'il faut vraiment faire attention à chaque cas et à chaque situation. Ça peut aussi être des personnes qui avaient un titre de séjour et qui, au moment du renouvellement du titre en préfecture, se retrouvent confrontées aux lenteurs de l'administration et basculent dans l'irrégularité alors qu'elles étaient en situation tout à fait régulière auparavant. Et donc là, en fait, c'est, on y reviendra peut-être plus tard, l'État qui fabrique lui-même des sans-papiers en France, ce qui est quand même assez problématique. Ce qu'il faut dire aussi pour définir une personne sans-papiers, c'est que ce sont des personnes qui n'ont aucun droit. Puisqu'elles n'ont pas de titre de séjour, elles n'ont pas droit au séjour en France, elles n'ont pas de droit, hormis le fait de scolariser leurs enfants si elles ont des enfants, et hormis l'accès à la santé, qui reste restreint via le dispositif de l'aide médicale d'État, donc l'AME, dont on entend assez souvent parler, notamment dans la bouche de la droite et de l'extrême droite en France, qui veulent la supprimer, considérant que ça coûte trop cher pour le pays, ce qui n'est pas le cas. Je pense que c'est très important de le poser, parce que ça peut être des personnes qui travaillent légalement et qui, malgré tout, n'ont droit à rien en termes de retraite, de chômage, d'arrêt maladie, etc. etc. Et ça, c'est un point, je pense, assez crucial. Alors oui, il y a plusieurs façons de travailler quand on est sans papier. Il y a la façon, disons, la plus classique, qui est celle du travail au noir, du travail non déclaré. Donc typiquement le cas des personnes dont je raconte l'histoire en région parisienne qui attendent devant un magasin de bricolage. En l'occurrence là c'est le Roi Merlin dans le 94 dans le Val-de-Marne qui attendent d'avoir un petit boulot à la journée. Donc ça peut être une mission qui va être donnée par un chef de chantier qui a besoin de bras pour un chantier. Pour un jour, deux jours, trois jours, et qui va les payer entre 40 et 50, voire 60 euros maximum la journée, s'il les paye. Donc il va les ramasser le matin à l'aube, et qui va les emmener sur le lieu de travail, donc au chantier. Il va les faire travailler toute la journée. En cas d'accident du travail, ces personnes ne sont pas du tout protégées, ni indemnisées. Donc le soir, elles auront fini leur travail. Si elles ont de la chance, elles ont reçu un petit billet et voilà. Ou alors des particuliers qui vont faire appel, et là je reviens dans le 94 devant le Roi Merlin, à des personnes sans papier qui font le pied de grue, sans mauvais jeu de mots, devant l'enseigne, pour aider à porter par exemple du matériel de bricolage, des gros meubles, etc. Pour le coup, trois fois rien, encore moins que le cas précédent. Ça peut être de l'ordre de 5 euros à 20 euros pour ce type de service rendu. Ça, c'est pour le travail non déclaré qu'on appelle au noir. Il y a une autre façon assez répandue de travailler quand on est sans papier, c'est ce qu'on appelle le travail sous alias. Donc si une personne a un titre de séjour en France, donc est en situation régulière, va prêter contre rémunération son titre de séjour à une autre personne qui, elle, est en situation irrégulière. Et donc il faut qu'il y ait un semblant de ressemblance quand même entre les deux. Ce qu'il faut dire, c'est que les employeurs et notamment les agences d'intérim le savent parfaitement et encouragent parfois elles-mêmes les sans-papiers à emprunter le titre d'un autre ou d'une autre. Et évidemment, il y a des conséquences puisque, comme je le disais, c'est contre une rétribution financière. Donc la personne qui prête son titre de séjour prend une marge au passage sur le salaire que perçoit la personne sans-papiers, qui peut être assez conséquente et qui peut mettre les gens en grande difficulté. C'est le cas de Sabine dans le bouquin, qui aide à domicile et qui, chaque mois, attend désespérément que son salaire soit versé sur son compte et en fait, qu'il l'est à chaque fois de plus en plus en retard, et alors qu'elle a un loyer à payer et elle a des enfants à nourrir.
Et puis du coup, la personne cotise pour l'alias.
Exactement. Ça soulève encore d'autres problématiques puisque la personne sans papier se retrouve à cotiser pour une tierce personne, en l'occurrence l'alias. Et donc, ça crée des injustices monstres. Il arrive même parfois que l'alias prête son titre de séjour à différentes personnes, plusieurs personnes, et qu'au final, elle se retrouve à payer trop d'impôts et qu'elle demande du coup à toutes les personnes à qui elle a prêté son titre de séjour de contribuer à cet impôt. Et après, il y a encore une autre façon de travailler quand on est sans papier, c'est l'utilisation d'un faux document, donc faux titre de séjour, voire fausse carte d'identité française. C'est des documents qui se vendent sur le marché noir à Paris pour environ 300-350 euros, dans des boutiques que les gens connaissent. Hein, les adresses, de toute façon, se partagent, disons, y compris la police et les autorités savent très bien où ça se passe, mais laissent faire ce business. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que les préfectures pardonnent beaucoup moins facilement. L'utilisation d'un faux document, c'est vraiment le truc qui peut vous griller auprès de la préfecture au moment où vous allez faire une demande de régularisation. C'est très compliqué de convaincre les services de la préfecture de votre honnêteté quand vous avez fait appel à ce type de système. Et en même temps, les personnes concernées n'ont pas tellement d'autre choix que de contourner le système en place, puisque de fait, elles sont en France, elles sont quelque part tolérées, puisqu'elles ne sont pas expulsées. Et donc, il faut bien qu'elles travaillent. Ça arrange beaucoup d'entreprises de les avoir. Donc là aussi, il y a quand même une grosse hypocrisie à pointer. Et il y a une dernière manière de travailler quand on est sans papier. C'est le cas d'Yao dans le livre, qui travaille, lui, dans un supermarché dans une petite commune pas loin d'Avignon. Donc un Super U. Tout le monde connaît cette enseigne en France, je pense. Et là, pour le coup, il est déclaré, alors qu'il n'a pas de titre. Il n'a absolument aucun document, il a juste fourni son passeport et il travaille en CDI. Et ça lui permettra très certainement de déposer une demande de régularisation qui aura des chances d'aboutir parce qu'il aura les bulletins de salaire sur vraiment toute la période travaillée, plus un CDI à faire valoir, donc c'est pas rien. Mais ça montre bien qu'il y a des difficultés de recrutement telles pour les entreprises que certaines en arrivent à prendre ce risque-là. Face à une droite et une extrême droite qui hurlent depuis maintenant des années à la théorie raciste de l'appel d'air, qui dit qu'en gros, plus on accueille bien, plus on a un système social avantageux, plus on régularise, plus on va attirer derrière tout un tas d'autres personnes qui voudront rejoindre la France. Et aujourd'hui, on voit bien à quel point le discours de l'État, en tout cas de nos dirigeants, c'était le cas sous le précédent gouvernement et c'est encore le cas aujourd'hui, ne veut surtout pas aller dans ce sens-là. Il ne régularisera pas en masse et encore moins en moyenne, disons, j'allais dire normale, celle qu'on peut voir en tout cas depuis quelques années. Aujourd'hui, on nous parle de régulariser au compte-gouttes. Ça, c'est le discours de Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur, au compte-gouttes, ce qui est absolument terrible et insensé en réalité, mais je pense que vraiment l'État ne régularise pas avec des nombres importants parce qu'il redoute derrière la réaction de toute une partie de la sphère politique qui crierait à l'invasion migratoire, que je mets entre guillemets, à la submersion migratoire, toutes ces notions qu'on entend maintenant depuis quelques années et qui ont complètement imprégné le débat public et médiatique. Moussa, dans le livre, il en parle. Moussa, c'est un agent d'entretien dans les trains de la SNCF. Il le dit. Lui, je pense qu'il résume un peu toute cette situation avec le mot hypocrisie. C'est-à-dire qu'effectivement, pour régulariser aujourd'hui une personne sans papier en France, il faut passer par la circulaire Valls. Donc déjà, c'est pas inscrit dans la loi. Ça, c'est le premier problème. C'est ce qui avait été demandé par de nombreux collectifs sans papier, de nombreux travailleurs sans papier et de nombreuses associations d'aide aux étrangers au moment de l'examen de la loi Darmanin. C'était de pouvoir inscrire un droit opposable à la régularisation dans la loi. Aujourd'hui, ça ne relève que d'une circulaire, la circulaire Valls, qui date de 2012. Comme c'est une circulaire, ça ne relève que de la discrétion des préfets. Ça veut dire que en fait, chaque préfet en fait ce qu'il veut. c'est vraiment à sa libre appréciation. Mais du coup, ça dépend aussi de ses idéologies politiques, par exemple. Et donc, un préfet qui serait davantage marqué à droite, voire extrême droite, peut très bien décider de ne pas régulariser du tout, ou de régulariser uniquement au compte-gouttes. Du coup, ça crée des disparités sur le territoire national, en fonction de chaque département, énormes. Pour le travail, paradoxalement, on demande aux personnes de ramener des fiches de paye. Pourquoi pas un contrat de travail en CDI si elles en ont un. Et il faut donc avoir accumulé un certain nombre de fiches de paye en fonction de la durée de travail pour pouvoir déposer son dossier de ce qu'on appelle AES, donc c'est admission exceptionnelle au séjour. Sauf que, paradoxalement, en fait, on interdit aux personnes sans papier de travailler. Ou plutôt, il y a une nuance, parce qu'on ne peut pas interdire aux gens de travailler, même si ces personnes sont sans papier. On interdit aux employeurs de faire appel à des personnes sans papier, et même on va jusqu'à les sanctionner s'ils le font. Donc tout le paradoxe est là, c'est-à-dire que l'État, d'une certaine manière, reconnaît à la fois l'existence des personnes sans papier en France, mais aussi le fait qu'elles travaillent. Je veux dire, c'est une évidence. L'État le reconnaît, puisqu'il y a cette circulaire qui a quand même été mise en place en 2012. Mais à côté de ça, rien n'est fait pour, par exemple, arrêter de pénaliser les entreprises lorsqu'elles font appel à des personnes sans papier. Après, je peux comprendre qu'on pénalise les entreprises s'il y a une forme d'exploitation derrière, évidemment. Mais c'est aussi ce que je raconte dans le livre. Il y a aussi des patrons que je qualifierais de bienveillants, de réglos, quoi, qui embauchent des personnes sans papier vraiment parce qu'ils ont envie de les aider. Ils ont envie de les aider à accumuler justement le nombre nécessaire de bulletins de paie pour pouvoir déposer un dossier en préfecture. Ils vont même accompagner leurs travailleurs en préfecture pour soutenir leur démarche, leurs demandes. Ils vont écrire des courriers, etc. Donc il y a des patrons qui se comportent bien. Il y en a d'autres, évidemment, qui sont dans l'exploitation pure et dure. Et ceux-là, évidemment, il faut qu'ils soient sanctionnés. Et ce que me disent beaucoup d'acteurs aujourd'hui, avec la loi Darmanin, mais aussi avec le climat politique ambiant, c'est que ça va en s'empirant. C'est-à-dire qu'avant, on ne pensait pas que ça pouvait être pire, et là, ça va vraiment en s'empirant. Il y a énormément de demandes de régularisation qui sont au point mort en préfecture. De nombreuses préfectures en France, pour l'instant, ont levé le pied sur les régularisations, préfèrent mettre en suspens, ou alors donnent des dates très éloignées pour un dépôt, en préfecture, genre 2025. Fin 2025, ce qui est quand même très tard. On commence à avoir des voix maintenant qui s'élèvent, y compris dans le secteur des entreprises, y compris dans des entreprises qui font partie du CAC 40, qui disent aujourd'hui non, on a besoin d'une immigration du travail, on a besoin de régulariser des personnes sans papier qui travaillent déjà dans certaines de nos entreprises. Je pense qu'il faut ouvrir les yeux sur cette réalité-là, sans rentrer dans quelque chose de totalement opportuniste, c'est-à-dire que nous, notre avis à Mediapart, c'est le mien aussi, il faut régulariser. Tout le monde mérite la régularisation. C'est pas parce qu'on travaille qu'on a davantage de mérite d'être régularisé qu'un autre ou qu'une autre. Mais de fait, toutes ces personnes participent, et c'est un peu ce que je raconte dans le livre, au quotidien à notre confort, à notre confort de vie, parfois sans même qu'on les voit, sans même qu'on les considère. C'est un peu ce que je dis au début du livre. Quand on va au supermarché pour faire nos courses, bah en fait, dans les rayons du supermarché, il peut y avoir des sans-papiers qui vont nous renseigner sur tel ou tel produit. Quand on va prendre des fruits et légumes au marché, quand on fait le marché, et ben en fait, les fruits et légumes qu'on va acheter, potentiellement, ils ont été ramassés par des mains de personnes migrantes, potentiellement sans papier dans nos champs agricoles, dans nos champs de culture. Le vin, c'est pareil. Le vin qui aujourd'hui représente la France à l'international. Bon, bah, qu'est-ce qui s'occupe en partie des vendanges en France? C'est les étrangers et une partie de sans papier. Et je pourrais continuer comme ça, en fait, éternellement, parce que c'est aussi ça qui m'a frappée en menant cette enquête, c'est que ça touche tous les secteurs d'activité, ou presque, en France aujourd'hui. C'est ça qui est fou. Ça ne concerne pas seulement les secteurs dits classiques qu'on connaît, à savoir la restauration, à savoir le BTP, mais ça concerne aussi l'entretien, ça concerne aussi les métiers du soin, ça concerne aussi la santé, puisque je raconte dans le livre l'histoire d'une femme médecin tunisienne qui, justement, bascule dans l'irrégularité du jour au lendemain, devient sans papier et travaille en tant que médecin à l'hôpital public pendant 8 mois en étant sans papier. Qui aujourd'hui imagine ça en France ? Personne. Personne. Et elle-même racontait qu'elle se retrouvait face à une patiente un jour sans papier qui lui racontait ses déboires avec l'administration française et elle n'osait pas lui dire qu'elle était elle-même concernée par ces mêmes problématiques-là. Donc je pense qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur la réalité, sur le quotidien de toutes ces personnes qui nous entourent, en fait, qu'on peut être amené à croiser à n'importe quel moment de notre journée. Et c'est ce que je raconte aussi dans le livre, c'est que toutes ces personnes, en fait, sont déjà pleinement insérées dans la société française. Il y en a même une partie d'entre elles qui me disent « moi, je me sens déjà français ». Ce qui me manque aujourd'hui, c'est les papiers. Mais je me sens déjà français, je suis insérée, je travaille, j'ai ma vie sociale, je consomme en France, je partage la langue française, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent, notamment pour les personnes originaires de pays anciennement colonisés par la France. Pour elles, il y a un lien, en fait, qui s'est créé, il y a quelque chose d'indélébile. Elles partagent un bout d'histoire qu'aujourd'hui l'État français voudrait balayer d'un revers de la main, supprimer, mais ça fonctionne pas comme ça. Et ce qui revient aussi beaucoup dans la bouche des personnes migrantes en France, c'est la France nous a colonisés pendant X années, c'est à notre tour de venir ici, et pourquoi on n'aurait pas le droit ? Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup et qu'on peut entendre, en fait. Mais malheureusement, on n'entend pas la voix des principaux concernés aujourd'hui. On entend parler des OQTF quand il y a des drames comme celui de Philippines, de Lola. Là, oui, on entend parler des OQTF, on entend parler des clandestins, entre guillemets. De tous ces étrangers qui vivent en France. Mais quand est-ce qu'on entend leur voix ? Je pense que pendant l'examen de la loi immigration, on a été les seuls à Mediapart à faire une émission spéciale avec que des personnes étrangères, dont des personnes sans papier. Alors que ça aurait dû être le cas partout, y compris sur les chaînes du service public. Je trouve ça dramatique qu'on n'entende jamais la voix de ceux dont on nous rabâche toute la journée sur certaines chaînes qu'ils seraient dangereux, qu'ils seraient une menace pour la France, qu'il faut absolument les expulser, mieux exécuter les OQTF. Mais je trouve ça dramatique. Et en fait, il faut aussi souligner la responsabilité immense des médias. Well, I went down to the rich man's house and I took back what he stole from me. Took it back.
La CIMAD, c'est une très vieille association puisqu'on existe depuis 85 ans, depuis 1939. À Marseille, on est beaucoup quand même sur l'accompagnement juridique des étrangers, étrangers au sens large, c'est-à-dire demandeurs d'asile, réfugiés, puis migrants. C'est une grosse part de l'activité des bénévoles. Et puis, on développe de plus en plus la sensibilisation, dans le sens où, avec le durcissement des lois, notre efficacité en matière d'accompagnement juridique est quand même assez limitée. Et donc, il nous semble que ce qui est important, c'est la sensibilisation pour changer le regard des gens sur l'étranger, sur l'autre. On renseigne à peu près 200 personnes par semaine. Entre les gens qui se présentent, les mails, les téléphones, etc. C'est pas toutes les personnes qu'on reçoit, mais on peut dire quand même qu'un nombre important travaille. Ils travaillent comment ? On peut avoir des personnes qui sont employées et totalement exploitées, C'est-à-dire que voilà, ils vont être payés rien du tout, ils vont être payés pour un quart de temps alors qu'ils en travaillent je ne sais pas combien, ils vont ne pas avoir de fiches de paye ou des fiches de paye qui ne correspondent à rien. Voilà, donc ça, on le voit, on a eu un cas très emblématique en 2023 de quelqu'un qui a été reconnu comme victime de traite à la fois par rapport à son travail et par rapport à son hébergement. Qu'il a fallu d'ailleurs exfiltrer de Marseille parce qu'il était trop menacé. Donc, je veux dire, ça peut aller jusque-là, jusqu'à la traite des êtres humains. Et puis, on voit des gens qui sont employés par des employeurs qui ne sont pas du tout véreux, qui les emploient, qui leur font même des fiches de paye. Et ils essayent de voir si vraiment il n'y a rien à faire, comment est-ce qu'on peut régulariser. Donc, je pense qu'il ne faut pas du tout voir le travail irrégulier comme uniquement avec des gens qui veulent se faire, enfin, qui veulent exploiter l'autre, etc. C'est pas du tout que ça. À se poser la question de savoir dans quel métier essentiellement on trouve les travailleurs étrangers en situation irrégulière, je crois que la réponse elle est assez claire, c'est-à-dire que forcément c'est les métiers déjà qui sont les moins considérés en France, qui sont les moins bien payés en France. Donc effectivement on retrouve des métiers de l'hôtellerie, de la restauration, le bâtiment où il y a aussi... alors c'est des métiers non seulement qui sont mal payés, mais aussi où il y a un manque important. On manque énormément dans les métiers, les paramédicaux ou les médecins, etc. Et là, ce n'est pas que les Français ne veulent pas les faire, c'est que la politique de la France depuis des années a fermé les yeux sur le fait qu'à un moment donné, forcément, il y allait avoir un goulot d'étranglement parce qu'on formait de moins en moins, qu'il y a des services où pratiquement ce ne sont que des praticiens étrangers, ou de plus en plus, et qui évidemment ne sont pas du tout payés au même taux que les autres. Donc je veux dire, ce n'est pas forcément que des métiers que les Français ne veulent pas faire. D'avoir une espèce de marge de manœuvre par rapport à la tension sur le marché du travail, ça permet aussi de ne pas augmenter les salaires de la masse salariale en général, des Français, etc. Parce qu'il y a une certaine rivalité entre les personnes qu'on sous-paye et les autres. Donc, on ne pense pas, mais par exemple, la haute couture, dans la haute couture, tout fonctionne, enfin, fonctionne énormément avec des personnes en situation irrégulière. Tous les grands chantiers qu'il y a eu en France, y compris pour les Jeux Olympiques de cette année, mais on en avait parlé de façon très importante pour les Jeux Olympiques d'hiver en 72, donc ça remonte à longtemps, n'ont pu être faits et réalisés que parce qu'il y avait l'emploi de personnes en situation irrégulière. Régulièrement dans des pays européens, il y a des régularisations parce qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront pas fonctionner sans. Et la France le sait très bien qu'elle en a besoin. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, ils régularisent à la marge et de façon un peu, j'allais dire, clandestine, c'est pas officiel, mais par exemple, la circulaire Valls permet justement cette possibilité de ne pas avoir une position hyper stricte. Parce que la loi dit non, 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 la loi, on ne régularise pas, on ne veut plus de travailleurs étrangers, on ne délivre plus de visas ou beaucoup moins de visas, etc. Mais par ailleurs, on a des circulaires de régularisation qui permettent, quand il y a vraiment trop de tensions, qu'il y en a besoin, etc. Donc c'est d'une hypocrisie totale, et c'est évident qu'un jour ou l'autre, il y aura besoin de régulariser. Il y a un discours et il y a une pratique, quoi. Et ça, c'est quand même assez insupportable. Et pour nous, en tout cas, ce qui est le plus insupportable, c'est que ça met les personnes étrangères dans une anxiété continuelle, une angoisse, la peur du lendemain, de ne pas pouvoir se projeter dans l'avenir parce qu'ils ne savent pas si le soir ils ne vont pas être arrêtés quand ils rentrent chez eux, de ne pas pouvoir vivre dans des conditions décentes parce qu'ils ne peuvent pas louer un appartement dans des conditions normales, etc. Pour moi, c'est vraiment des conséquences qui sont inadmissibles parce que vraiment, on voit des gens... Enfin, c'est inhumain ce qu'on leur fait vivre. C'est inhumain ce qu'on leur fait vivre. Je pense que c'est vraiment les conséquences humaines sont terribles. Terribles, terribles.
C'était Galère de Taf et vous venez d'entendre Brigitte Appia, bénévole à la CIMAD Marseille.
Et la musique qu'on écoute s'appelle Rich Man's House. Je l'avais entendue lors d'un événement organisé par la Ligue des travailleuses domestiques sans papiers de Bruxelles.
Et juste avant, c'était Najma Brahim, journaliste chez Mediapart, et qui, on le rappelle, a écrit le livre 2 euros de l'heure aux éditions du Seuil en 2024.
Aussi, on voulait rajouter que l'émission que vous venez d'écouter, c'est grâce à l'existence de Radio Galère. Et Radio Galère existe aussi en grande partie grâce au financement du FSER, que le nouveau budget 2025 prévoit de baisser de 30%.
La radio, celle qui porte nos voix, mérite mieux que l'abandon auquel ce projet de loi la condamne.
À bientôt sur Radio Galère et Galère de Taf.
Under my feet, they're gonna let the sister walk all over me. Where did you go now? Where did you go? Went down to the White House and I took back what they stole from me.
Took it back.
Took it back my identity.
Took it back
my identity. Went down to the White House.
Under my feet,
well, under my feet,
he's under my feet.